Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Vincent Parisot, Christelle Revière.
Bonjour à toutes et à tous et bonjour Christelle.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Bienvenue, c'est parti, RTL midi. On va donc passer 7h30 comme chaque jour avec vous, mais surtout avec vos témoignages, avec votre vécu, avec vos commentaires. On vous attend au 32-10. Tiens, notamment pour parler de la route en hiver. On est au lendemain de cet épouvantable carambolage en Vendée et à 3 jours du réveillon de Noël. Sait-on vraiment conduire en conditions hivernales? Est-ce qu'on a les bons réflexes? Les feux anti-brouillard, par exemple, les bons pneus, est-ce qu'on sait repérer le verglas? Est-ce qu'on conduit en hiver comme en été? Et puis évidemment, pour le retour du réveillon, comment gérer la question de l'alcool? On va parler de tout ça ensemble au 32-10. On attend vos témoignages, les dangers de la route pour cette période des fêtes. Et puis on sera à 13h avec Christophe Ramon de la prévention routière. 32-10.
Même pas peur, les Berlinois entrent en résistance contre le terrorisme après l'attentat commis contre un marché de Noël. La police, elle, ciblerait désormais un Tunisien d'une vingtaine d'années. Des papiers d'identité ont été découverts dans la cabine du camion Bélier. Un effort de guerre, c'est ce que réclame à haute voix le chef d'état-major des armées. Pierre Devilliers estime que le budget de la défense devrait passer à 2% du PIB. Dans RTL Midi aussi, l'extraordinaire saga de la layette à la française, la marque de vêtements pour bébé Orchestra, est en passe de devenir numéro 1 mondial en rachetant l'américain Destination Maternity. Ils ne passeront pas Noël en famille, par choix. Gros plan sur ceux qui vont travailler le soir du réveillon de Noël ou qui accompagneront des personnes seules ou en difficulté. Vous entendrez le témoignage d'un jeune éducateur en maison d'enfants à Marseille, mais nous comptons aussi et surtout sur vous au 32-10. C'est l'hiver et aussi le jour le plus court de l'année pour ceux qui ont droit au soleil. Patricia Charbonnier, dépêchez-vous de le regarder bien en face.
Oui, grand soleil cet après-midi dans le sud-est et en montagne. Ailleurs, c'est un petit peu plus nuageux. Deux choses, toujours cette grisaille tenace dans la partie nord-est entre la Lorraine et jusqu'à la Bourgogne et jusqu'au nord du Massif central. Donc des nuages bas et encore des brouillards tenaces. Et du côté de la Manche, là, c'est une perturbation qui arrive, qui va donner un petit peu de pluie, des pluies qui seront plus marquées sur la pointe du Finistère avec des températures comprises cet après-midi entre 2 et 18 degrés, 2 à Dijon, 6 à Lille et à Agen, 7 à Paris et Toulouse, 15 à Marseille et 18 degrés à Cannes.
Et la question du jour sur RTL.fr. On vous demande si vous avez terminé vos achats de Noël. Ben oui, on est à 3 jours du D-Day. C'est à peu près 50-50. Hein. Ça veut dire que moi, j'ai pris votre cadeau, mais pas vous, Christelle. Vous nous dites oui à 45%, non à 49%. On peut en parler, évidemment, de ce dernier rush des cadeaux de Noël. 32-10.
RTL Midi. Avant d'en venir à l'enquête sur l'attentat de Berlin dans ce contexte hautement sécuritaire, une grosse frayeur ce matin à Paris dans le 20e arrondissement. Un homme a été signalé en pleine rue avec une ceinture d'explosifs autour du ventre. Gros déploiement de forces de l'ordre. Mais c'est lui qui a eu la peur de sa vie, Olivier Bois.
Oui, parce qu'en fait, lui, c'est la victime dans cette histoire assez incroyable. Cet homme qui est donc un dabiste, un convoyeur de fonds. Vers 7h ce matin, il est en train de faire son travail à côté du distributeur de billets. Il est attaqué par 3 ou 4 hommes qui le braquent, qui le menacent, qui lui posent effectivement une ceinture d'explosifs sur la poitrine. Alors l'opération est un échec, les malfaiteurs ne trouvent pas d'argent, ils prennent la fuite. Mais en laissant ce pauvre homme sur le trottoir totalement tétanisé, il a peur évidemment que la ceinture explose, mais il a peur aussi que les policiers le prennent pour un terroriste. Oui. C'est lui d'ailleurs qui prévient la police, il appelle au secours, il ne cesse de répéter sur le trottoir « je suis une victime, je suis une victime ». Malgré toute sa bonne foi, vous imaginez bien que les policiers sont obligés d'être extrêmement prudent. Ils établissent un périmètre de sécurité autour de cet homme. Finalement, ils le libèrent. Ils se rendent compte à ce moment-là que la ceinture est factice, mais le mal est fait évidemment pour lui. Le convoyeur a été extrêmement choqué. Il a eu la peur de sa vie. Et c'est maintenant la BRB, la Brigade de répression du banditisme, qui est chargée de cette enquête.
Incroyable histoire, Olivier Bois, merci.
Allez, on va en Allemagne. L'Allemagne confrontée au pire attentat commis sur son sol par l'État islamique, puisque Daesh a revendiqué, vous le savez, depuis 36 heures maintenant, c'est la chasse à l'homme. Et on se demande toujours qui a conduit ce camion bélier sur le marché de Noël situé au pied de l'église du Souvenir à Berlin. La police affirme examiner 500 indices, des traces ADN, des images de vidéosurveillance, des témoignages. Et voilà que d'après la presse, maintenant, Blandine 1100, on apprend que la police serait sur la piste d'un Tunisien.
Oui, beaucoup de détails tombent depuis une heure. Alors, selon le Spiegel Online, la police a retrouvé des papiers d'identité sous le siège du camion. Une autorisation temporaire de séjour établie au nom d'un Tunisien d'un peu plus de 20 ans, originaire de Tataouine, dans le sud de la Tunisie, et connu sous trois identités différentes. Connu aussi, selon l'agence de presse DPA, des services de police pour violences corporelles. Il serait membre d'un grand réseau islamiste. D'après le quotidien Bild Zeitung, cette fois, le conducteur du camion aurait été blessé dans l'attaque de lundi soir. Et le chauffeur routier polonais, son passager qu'on avait retrouvé mort dans la cabine, a sans doute cherché à éviter cette attaque, car selon un enquêteur cité par Bild, il était encore en vie lorsque le poids lourd est arrivé sur la place et il portait des traces de coups de couteau sur le corps. Donc il y a peut-être eu un combat dans cette cabine au moment du drame.
Et le gouvernement, lui, Blandine, adopte de nouvelles mesures de sécurité.
Oui, avec notamment des mesures pour renforcer la vidéosurveillance dans les lieux publics, ce qui est moins développé en Allemagne qu'en France. Par exemple, sur les lieux de manifestations sportives ou les centres commerciaux. Ce sont des mesures qui avaient été décidées avant l'été, mais qui ne peuvent pas mieux tomber, si l'on peut dire, pour le gouvernement Merkel.
Blandine Milsan, direct de Berlin pour RTL, merci. Nous allons trouver la force de continuer à vivre libre, a dit hier Angela Merkel, mais le grand quotidien Bild titre aujourd'hui sur la peur. Angst. Samuel Goldschmidt, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL à Berlin, où l'on veut justement résister à cette peur.
Et spécialement dans cette partie de Berlin, Charlottenburg, la plus fréquentée de la ville, encore une fois, où les amoureux de leur marché de Noël veulent surtout se consoler et continuer à vivre.
Moi je dis, restons calmes, il y aura d'autres Noëls, restons unis, organisons peut-être quelque chose de plus sûr, mais continuons.
Félicia vient de déposer une bougie de Noël au pied de l'église du souvenir. Comme beaucoup de Berlinois du quartier, elle pense aussi à l'avenir ici.
Peut-être qu'il faudrait par exemple mettre des blocs de béton pour empêcher que ça se reproduise. Mais je pense de toute façon qu'on ne devrait pas se laisser démolir notre façon de vivre. C'est ce que veulent ces gens de toute manière. Que nous ayons peur, que l'on n'ose plus sortir. Et je pense que l'on devrait faire exactement le contraire. Et ne surtout pas se laisser influencer.
Et pour elle, d'ailleurs comme pour beaucoup d'autres, il faudra recommencer le marché de Noël au pied de l'église à l'avenir. Et dès ce soir, ce sont d'ailleurs les fans de foot qui appellent à montrer qu'ils n'ont pas peur. Il y a match au stade olympique où le Hertha Berlin affronte Darmstadt.
Samuel Goldschmidt, envoyé spécial d'RTL à Berlin.
Et comme vous le révélez RTL ce matin, la France accroît ses contrôles aux frontières avec l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg. Il y aura aussi plus de présence policière aux abords des marchés de Noël. Et c'est dans ce contexte qu'évoquait la question du budget de la défense. Question posée par le chef d'état-major des armées en personne, Pierre de Villiers. Il réclame aujourd'hui dans le quotidien Les Échos un nouvel effort de guerre. Il faudrait selon lui porter le budget de l'armée à 2% du PIB. Aujourd'hui, il est à 1,77%. Alors ça fait un petit peu moins de 0,3%. Mais voilà, ça représente quand même 7 milliards d'euros environ, Pierre-Julien.
Et comme le soulignait dernièrement le général de Villiers, l'armée française est au taquet. En effet, la ligne rouge est plus qu'atteinte. Il faut, dit-il, absolument renouveler un matériel au bord de l'usure. Nos avions ravitailleurs ont plus de 50 ans. Le premier Transall de transport est entré en service en 1967 et son successeur, la 400M, n'est pas encore totalement opérationnel. Or, sans ces types d'avions, on ne peut pas mener une guerre à distance. Que dire de nos véhicules de l'avant blindés, les VAB, quadragénaires, deux fois plus âgés que les soldats qui embarquent à bord. Second point soulevé, alors que le surcoût des opérations extérieures chaque année bat des records de dépassement, nos militaires, hommes, femmes, sont 30 000 en moyenne mobilisés chaque jour, dont 10 000 ont même été engagés dans la protection intérieure, la mission Sentinelle, du jamais vu, d'où la création d'une garde nationale. Mais il faut répondre financièrement à cette suractivité, indemnité, prime, comme on dit, le carburant pour la victoire, pour que nos militaires, éloignés de leur famille, jusqu'à 230 jours sur l'année, gardent le moral. Enfin, le politique devra décider si, oui ou non, la France conserve ses composantes de dissuasion nucléaire, l'aérienne et l'océanique, une double force dont le maintien s'élève à près de 4 milliards par an.
Pierre-Julien, eh bien, est-ce qu'on peut parler de la grande misère, de la grande muette? Vous avez peut-être un avis, donnez-le nous, 32-10.
De nouvelles règles pour la légitime défense, les policiers la réclamaient depuis des mois. Le texte est présenté en Conseil des ministres ce matin. Ils pourront tirer après sommation dans 4 cas si une personne armée refuse de déposer son arme, lorsqu'il protège un bâtiment, quand un chauffard force un barrage de police et enfin lorsqu'une personne interpellée tente de s'évader. Sachez aussi que François Hollande s'est rendu dans la matinée à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne en France pour signer le registre de condoléances ouvert à la suite de l'attentat de Berlin. En Russie, un hommage national sera rendu demain en présence de Vladimir Poutine à l'ambassadeur assassiné par un policier turc à Ankara.
Une courte pause et dans un instant, de la layette tricolore qui va dominer le monde des nouveau-nés. A tout de suite.
RTL Midi, Christelle Rebière, Vincent Parizeau.
Ah ça, c'est une vraie réussite made in France et on adore ça. Le fabricant français de puériculture et de vêtements de bébé Orchestra, Prémaman, vous connaissez sans doute, va devenir un géant mondial puisqu'il va fusionner avec l'américain Destination Maternity. Le gros bébé à l'arrivée pèsera plus $1 milliard de chiffre d'affaires. On peut dire que c'est une incroyable success story pour Orchestra, donc cette marque créée il y a une vingtaine d'années par un couple de Montpellier, Eric Vanier.
Oui, Pierre Mestre, qui a grandi dans le quartier populaire de La Paillade à Montpellier, et son épouse Chantal ont lancé cette marque en 1995 avec 210 000 francs, je dis bien francs, en poche. En fait, c'était des marques gagnées en Allemagne juste après la chute du mur. Ils se sont précipités à Leipzig pour vendre aux Allemands de l'Est qui manquaient de tout, des vêtements et des couches pour bébés. Succès, retour à Montpellier pour lancer donc cette marque Orchestra. Au départ, ce sont plutôt de petits magasins de centre-ville qui vendent du textile destiné aux enfants en bas âge. Mais rapidement, le couple va voir de plus en plus grand, diversifier ses rayons avec tout ce qui touche aux bébés et à la femme enceinte, agrandir ses magasins en implantant dans les zones commerciales à la périphérie des villes de véritables supermarchés de la puériculture et de la petite enfance. Cette croissance Orchestra l'alimente aussi en rachetant ses concurrents, Prémaman, le Suisse Babycare, Baby 2000, Home Market, Autour de Bébé et donc bientôt l'américain Destination Maternity. Toutes ces marques sont passées sous le contrôle d'Orchestra qui est devenu au fil des ans l'un des premiers acteurs mondiaux du secteur. Pas un centime de perte depuis 20 ans, rien que des exercices bénéficiaires. Le siège social n'a pas bougé, les entrepôts et la logistique non plus, c'est toujours à Montpellier, mais la production, la fabrication, elle, vient essentiellement de Hong Kong.
Une belle histoire made in France, merci Eric Vanier. Une tentative d'évasion ce matin à la prison de Rouen. Deux individus, après avoir garé un camion de chantier près du mur d'enceinte de la prison, ont lancé une corde à un détenu dans la cour de promenade. Les surveillants ont effectué des tirs de sommation. Les complices ont finalement été interpellés quelques centaines de mètres plus loin par la police. C'est une information de Frédéric Veil, le correspondant d'RTL en Normandie. 5 morts et une vingtaine de blessés, c'est donc le terrible bilan du carambolage d'hier sur une voie rapide en Vendée à cause du brouillard. C'est comme si les automobilistes s'étaient retrouvés face à un mur. Alors que les gros départs de ces vacances de fin d'année auront lieu dès demain, nous avons voulu obtenir quelques conseils de bonne conduite en mode hiver. Et l'ancien pilote de Formule 1, Jean Alési, s'est prêté à l'exercice.
La première des choses à faire, c'est ralentir sans faire de mouvement brusque. Et quand je parle de mouvement, ça peut être bien sûr au volant, mais c'est aussi avec les freins pour déjà pas surprendre les voitures qui arrivent derrière vous. Donc, garder les distances, ne pas se jeter sur les freins et encore moins créer des mouvements de panique pour les voitures qui arrivent derrière, c'est la chose la plus importante. Il faut être concentré, il faut surtout garder une distance s'il y a une voiture devant, une distance suffisante pour ne pas la perdre de vue, parce que souvent, on ralentit trop et puis la voiture qu'on a devant, quelque part disparaît et on n'a plus de référence, mais surtout, adapter la vitesse. Il faut être très très lent sans être dans une situation où les voitures de derrière peuvent être surprises.
Voilà, donc ce que dit Jean Alési, hein, notamment sur la conduite dans le brouillard, au micro de Jacques Seret, la distance est très importante. Alors évidemment, on pense en brouillard après la tragédie d'hier, mais aussi le verglas, évidemment, hein, où, par exemple, auquel il faut faire attention l'hiver. Et puis l'autre grand danger en cette période de fête, c'est aussi l'alcool. Alors on attend vos conseils, vos témoignages au 32-10. On en parlera tous ensemble tout à l'heure avec Christophe Ramon de la prévention routière.
Enfin, un philosophe, candidat à l'élection présidentielle, qui aimerait bien se faire confesser par Karine Le Marchand sur M6. Vincent Payon a eu cette étonnante confession ce matin sur RTL au micro d'Elisabeth Martichoux.
Je l'ai trouvé tout à fait remarquable. Je l'ai regardé, puisque j'avais beaucoup de temps pour vous regarder et vous écouter les uns et les autres, et j'ai trouvé cette émission très intéressante. Elle disait une vérité, je crois, sur les hommes politiques qui, dans le fond, pouvaient réconcilier un peu beaucoup de nos compatriotes qui ont une vision assez dure avec les hommes politiques, avec eux.
Donc vous diriez oui si elle vous invitait ? Voilà, le message est passé. Si elle le faisait, ce serait oui, et c'est assez inattendu finalement. Vous attendez pas sur ce terrain, il faut le dire.
Moi, c'est même plus qu'un oui, c'est carrément un appel du pied, hein, j'ai l'impression. Moi.
Bah oui, d'autant qu'Ambition Intime, malgré les critiques, a réuni en moyenne 3 millions de téléspectateurs. Laurent Marcy, qu'est-ce que son vœu à Vincent Peillon pourrait être exaucé?
Alors, il faudrait tout simplement qu'il remporte la primaire de gauche, parce qu'en l'état, il est techniquement impossible, dit-on à M6, que l'émission puisse exister d'ici le 29 janvier, date à laquelle la gauche connaîtra son vainqueur. En fait, ils ont été pris de court, puisque certains candidats comme Manuel Valls se sont déclarés tardivement. Or, monter une émission comme celle-là, bah, ça demande du temps. Au moins 3 semaines de recherche d'archives, sans compter le tournage, le montage, et puis les chaînes ont obligation d'annoncer leur programme 3 semaines avant diffusion. Par contre, rien n'empêche de refaire l'émission plus tard, avant la présidentielle et donc après la primaire de gauche. Il va falloir trouver d'autres candidats. Je vous donne une info, il n'y a pas que Vincent Peillon qui postule. Pas plus tard qu'avant-hier, Ramayad a par exemple contacté la production pour dire qu'elle aimerait bien, elle aussi, faire l'émission. Au fond, tout ça, c'est aussi une belle revanche pour Karine Lemarchand, la présentatrice, qui s'était fait étrier par les...
Bah oui, tout le monde lui a jeté des pierres au début. Oui. Maintenant, ils veulent tous y aller. Comme quoi, la roue tourne.
Merci Laurent. Une pause dans un instant, nous reviendrons sur l'enquête en Allemagne et cette chasse à l'homme. Nous y reviendrons avec le secrétaire général adjoint du syndicat de police, des commissaires de police.
RTL Midi, Christelle Rebière, Vincent Parisot.
Invité d'RTL Midi, Jean-Luc Taltavul, bonjour.
Monsieur.
Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat des commissaires de police. Et précisons tout de suite que vous avez exercé en Allemagne de 2007 à 2011. C'est important évidemment parce qu'on est moins de 2 jours après l'attentat de Berlin qu'on va parler des mesures de sécurité en France comme en Allemagne, mais aussi des conditions de l'enquête. Commençons par ça. On rappelle d'ailleurs que la police recherche désormais un Tunisien, que le premier suspect pakistanais a été remis en liberté hier, et puis aussi qu'un appel a été lancé aux témoins de la scène pour envoyer leurs photos ou vidéos à la police. Vu de France, on a le sentiment d'une sorte d'impréparation à cette situation particulière. Est-ce que vous, qui connaissez bien l'Allemagne, donc vous partagez cette analyse ?
Je ne parlerai pas d'impréparation, puisque les collègues allemands, comme nous, avant les attaques de janvier 2015, savaient très bien qu'ils y auraient droit. La question étant pas...
Ils savaient que ça arriverait en Allemagne, à Berlin.
Mais quand ? Voilà, on ne savait pas ni où, ni quand, ni comment. On a la réponse maintenant, une première réponse, c'est peut-être d'ailleurs malheureusement pas la dernière. Je rappelle que l'auteur est en fuite, justement. Ce qui traduit bien cette volonté éventuelle de réitération. Ils ne se contentent pas de mourir joliment sur un fait d'armes. S'ils peuvent en faire plusieurs, je pense qu'en tant que terroriste, ça ne les dérange pas. Et ça, c'est un paramètre qui n'était pas peut-être totalement pris en compte par la société allemande dans son ensemble, qui, alors on peut la comprendre, traumatisée par deux dictatures plus sanglantes les unes que les autres, et notamment une qui a fini à la fin des années 80, donc c'est tout proche de nous encore, avec une société de surveillance qui existait en République démocratique allemande. Ils sont très très chatouilleux sur le sujet des libertés individuelles dès qu'il s'agit de mise en œuvre de moyens techniques.
Est-ce que par exemple il y a ou pas des caméras de vidéosurveillance à Berlin ?
Non, quasiment pas.
C'est ça, voilà.
Parce qu'on était assez surpris, justement. Sur un grand hôtel, dans un contexte spécifique, si on peut justifier d'un risque grave d'atteinte aux personnes ou aux biens, un dispositif pourrait être mis en place. Les ambassades sont protégées par des systèmes vidéo, mais c'est purement local. Aucun sur les marchés de Noël, aucun dans la plupart des grandes emprises qui, chez nous, font l'objet entre-temps de vidéoprotection, il n'y en a pas en Allemagne.
Donc, pas de vidéosurveillance. Est-ce qu'il y a des hommes en armes ? Parce qu'on a eu hier beaucoup de témoignages d'auditeurs qui étaient allés sur des marchés de Noël en Allemagne, qui nous ont, et notamment celui de Berlin, qui nous ont dit « j'ai pas vu un policier, j'ai pas vu un homme en armes ». Et finalement, est-ce qu'on se demande si l'Allemagne a une difficulté particulière à appréhender une société avec des hommes armés dans les rues ? Tout ça, toujours en référence à son passé.
Alors, le passé reste présent. Maintenant, la menace terroriste, elle a quasiment 10 ans, même si elle s'est accentuée avec l'État islamique. Et on voit bien que... Enfin, on voyait des patrouilles dans les gares, etc. Uniquement de policiers, jamais de militaires. Ça, c'est une première spécificité par rapport à la France, puisqu'il y a une séparation très stricte entre la défense et l'intérieur, pour l'instant, en tout cas. Et on voyait des patrouilles, mais vraiment limitées aux moyens de transport. Les aéroports, les gares, sur des lieux publics, ça aurait choqué le marché de Noël, pour ceux qui y sont déjà allés. C'est vraiment le lieu où on prépare son cœur à la paix de Noël.
Mais c'est ça. Aujourd'hui, les Allemands seraient choqués de voir des soldats en armes.
Même des adultes. C'est pas cynique, mais de vue de France, c'est un peu difficilement compréhensible peut-être, mais il est d'usage après le travail de se retrouver pendant une heure avec les collègues pour simplement passer du temps ensemble, de boire une petite tasse de vin chaud.
Et
des policiers armés au milieu, ça aurait dénoté. C'est toujours cette incapacité à imaginer l'inimaginable. Maintenant que ça s'est produit, je pense que ça choquera moins. C'est malheureusement un peu toujours la même histoire qui se répète.
Est-ce que l'état d'urgence, par exemple, en Allemagne, comme on le vit nous ici depuis des mois et des mois, c'est quelque chose d'envisageable aujourd'hui ?
Alors juridiquement, non, puisqu'ils n'ont pas de cadre juridique similaire en termes de mise en place de régimes dérogatoires qui autorisent un certain nombre de perquisitions administratives, par exemple. Ils n'ont pas de régime dérogatoire, mais ils ont un régime permanent qui est beaucoup plus développé que le nôtre. C'est-à-dire que la police administrative en Allemagne, la police qui est là pour prévenir la commission de faits, est beaucoup plus forte qu'en France. C'est-à-dire sur un simple, pour prendre un exemple, un jeune qui mettrait une photo Facebook de lui en armes en disant ça va chauffer au lycée, il n'y a pas besoin d'autorisation d'un magistrat pour aller d'urgence identifier l'adresse IP d'où a été postée cette photo et si un domicile se révèle, aller perquisitionner en application des pouvoirs préventifs permanents des forces de l'ordre. Nous sommes assez favorables à une réflexion d'introduire dans notre droit aussi une telle capacité de levée de doute, une capacité en fait de prévention des dangers dans des situations bien étayées, avec un contrôle a posteriori d'un juge évidemment, mais que dans l'urgence on puisse agir beaucoup plus vite. Les Allemands l'ont déjà ça, donc ils n'ont pas besoin.
Ce n'est pas de la présomption légitime.
Ça n'a rien à voir. Non, on est d'accord. Le sujet d'emploi des armes, c'est encore un autre sujet sur lequel les Allemands sont en avance sur nous. Eux, la loi qu'on envisage peut-être d'adopter prochainement, ils en ont une déjà depuis plusieurs années qui fixe bien précisément que peut faire un policier pour l'exécution de sa mission.
Côté français, Bruno Le Roux a donné des consignes pour muscler le dispositif policier après cette attaque de Berlin. Vous, en tant que représentant des commissaires de police, est-ce que vous auriez préféré juste qu'on annule, par exemple, ces marchés de Noël pour les derniers jours qui restent?
Alors là, il y a un dilemme entre le citoyen et le policier. En tant que syndicaliste des chefs de police, je assez bien placé pour savoir le degré d'épuisement de la structure actuellement et dire qu'on va renforcer encore notre posture, si ce n'est, je crois, qu'on va recourir encore à un peu plus de militaires. C'est pas complètement sans causer de problème, en fait. On n'a pas trop de ressources, on n'en garde pas sous le pied par précaution.
Voilà, c'est si ça, vous n'avez pas de marge, vous êtes déjà au taquet.
C'est quand même pas si simple. Il est évident que le gouvernement est dans son rôle quand il dit que nous restons très mobilisés, parce que c'est vrai, il n'y a pas une semaine sans qu'on interpelle des gens qui sont de retour de Syrie ou d'Irak, notamment, et ils font l'objet d'un traitement judiciaire vigoureux, et c'est une bonne chose. Donc les services sont pleinement mobilisés. Ce qui est arrivé en Allemagne peut nous arriver à nous aussi. On voit bien qu'on ne peut pas tout sécuriser tout le temps, d'où l'importance que chacun, d'ailleurs, à sa place, fasse montre de civisme en signalant l'anomalie qu'il ne comprend pas, plutôt que de dire c'est pas grave, c'est pas mon affaire. Je crois qu'on en est là.
Merci Jean-Luc Taltavul d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Bonne journée.
Allez, une courte pause et dans un instant, on va prendre des nouvelles du ciel.
La météo, Patricia Charbonnier, la pluie s'est enfin calmée dans le sud-est.
Oui, c'est même le retour d'un franc soleil sur le quart sud-est aujourd'hui. Grand soleil également en montagne. Encore un tout petit peu d'instabilité, quelques averses sur la côte orientale de la Corse. Ailleurs, c'est nettement plus gris. On a toujours ces nuages bas et ces brouillards persistants dans la partie nord-est, entre la Lorraine, la Bourgogne et le nord du Massif central. Alors que du côté de l'Atlantique, là, c'est une perturbation qui arrive cet après-midi, qui va donner des pluies faibles en général, mais les pluies seront un petit peu plus marquées quand même sur la pointe du Finistère, avec des températures stables, 2 degrés pour le minimum à Dijon, 6 à Lille, 7 à Paris comme à Toulouse, 15 à Marseille et 18 à Nice.
Et demain, de la pluie pour tout le monde ou presque ?
De la pluie sur le nord et l'ouest avec cette perturbation qui va progresser un petit peu plus dans les terres. Donc ce sera une journée pluvieuse entre les frontières du nord, l'Île-de-France et la côte atlantique. Ce sera plus ensoleillé en direction des frontières de l'est, surtout entre l'Alsace, les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, avec des températures comprises entre moins 2 et 8 degrés demain matin, moins 2 à Mulhouse, moins 1 degré à Lyon, 3 à Nîmes, 6 à Paris, 8 à Nice, 3 à 18 dans l'après-midi. Midi, 3 à Dijon, 4 à Nancy, 8 à Lille comme à Paris, 12 à Brest et 18 pour le maximum en Corse.
Et parlons de ce 21 décembre, cette journée compte 24 heures comme toutes les autres, ça oui, mais le jour, lui, ne durera que 8 heures et 15 minutes.
Ah, c'est le jour le plus court.
Et oui, c'est le solstice d'hiver, c'est aussi la journée mondiale de l'orgasme, sans doute parce que la nuit sera la plus longue de l'année.
Mais qu'est-ce qui vous prend? Parce qu'on a plus de temps et donc un petit peu plus de chance d'y arriver peut-être.
Ça, vous en tirez les conclusions que vous voulez.
RTL, il est 13 heures.
RTL Midi. Le 13h, Vincent Parisot, Christelle Rebière.
Et dans 5 minutes, vous aurez la parole sur RTL. On va parler de la sécurité routière en hiver, au lendemain de cet épouvantable carambolage en Vendée qui, vous le savez, a fait 5 morts et une vingtaine de blessés en raison du brouillard. Et à 3 jours du réveillon de Noël, qui sera évidemment très compliqué, comme chaque année sur les routes, puisque au problème peut-être de brouillard, peut-être de verglas, bref, de conditions hivernales, s'ajoute celui de l'alcool. Alors on attend vos conseils, vos témoignages au 3210. Est-ce qu'on roule en hiver comme en été? Est-ce qu'on sait vraiment rouler en hiver? Il est apparu par exemple qu'hier, lors de cet accident terrible en Vendée, de nombreux automobilistes n'avaient pas allumé leur feu anti-brouillard. On pourra en parler tout à l'heure avec Christophe Ramon de la prévention routière. 3210.
L'Allemagne à la recherche d'un Tunisien 36 heures après l'attentat de Berlin qui a fait 12 morts et 48 blessés. D'après la presse allemande, des papiers d'identité auraient été retrouvés dans le camion qui a foncé sur un marché de Noël, ainsi qu'un document indiquant le rejet d'une demande d'asile. En France, Guillaume Chiesse, de nouvelles mesures de sécurité ont été prises.
Exactement, à commencer par le renfort des contrôles à la frontière avec l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse. Des contrôles déjà élevés, mais depuis lundi soir, les autorités peuvent procéder à l'inspection systématique de tous les véhicules qui franchissent la frontière. Autre mesure concernant les marchés de Noël en France. Hier, Bruno Le Roux a demandé au préfet de faire remonter les besoins en sécurité des différents marchés sur tout le territoire. Le problème, c'est que le niveau de sécurité est déjà très élevé pour nombre d'entre eux. Le ministre de l'Intérieur lui-même l'a constaté à Strasbourg hier. Alors, peu d'alternatives. Des villes comme Lyon, Toulouse, Marseille vont simplement renforcer les patrouilles policières. Au Mans, des plots anti-intrusion ont été installés. D'autres villes comme hier, par exemple, vont maintenant procéder à des fouilles quasi systématiques sur les badauds qui se rendraient sur les marchés de Noël.
Merci Guillaume. Et puis de nouvelles règles pour la légitime défense. Les policiers les réclamaient depuis des mois. Le texte a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Ils pourront tirer désormais après sommation dans 4 cas si une personne armée refuse de déposer son arme, lorsqu'il protège un bâtiment, quand un chauffard force un barrage de police et enfin lorsqu'une personne interpellée tente de s'évader. Si vous êtes policier, dites-nous ce que vous en pensez. 3210. Enfin, nous attendons vos témoignages. Si vous ne passez pas Noël en famille, soit parce que vous travaillez, soit parce que vous accompagnez des personnes seules, écoutez Ambroise. Il est éducateur spécialisé dans une maison d'enfants, Les Mouettes, à Marseille. Et samedi soir, c'est dans les yeux des petits qu'il verra briller Noël.
Moi, je choisis de travailler cette année le 24 décembre pour être présent auprès de ces enfants qui en ont besoin, qui ont besoin qu'on dynamise un petit peu les activités ce jour-là, qu'on leur fasse vivre quelque chose d'un peu singulier aussi. Voilà, il y aura une sortie, il va y avoir un bon repas le soir, mettre un petit peu d'ambiance. Nous, on met les symboles de Noël, le sapin, la crèche, y aller jouer au pied du sapin, mais aussi être là pour être à l'écoute de ces enfants, pour pas leur faire revivre peut-être ce jour-là ce qu'ils ont vécu, des moments difficiles, des moments familiaux pas toujours évidents. Certains vont ressentir un sentiment d'abandon. Donc, être là pour recevoir leurs paroles, mais aussi leurs émotions, parce que bon, ça arrive qu'il y a certains qui, à ce moment-là, expriment de cette manière-là leur vécu. Voilà.
Un témoignage recueilli par Hugo Hamelin. C'était donc Ambroise qui va passer le réveillon de Noël avec des enfants placés dans un centre d'accueil. Il y a plusieurs manières de réveillonner de manière atypique. On l'a vu ainsi comme Ambroise. Les réveillons pour d'autres, avec d'autres. On attend vos témoignages. Dites-nous, si vous ne réveillonnez pas en famille samedi soir, dites-nous ce que vous allez faire. 3210.
Et puis nous aimerions aussi vous entendre sur la disparition de celle qui incarnait l'élégance à la française, Michèle Morgan, partie hier à l'âge de 96 ans. Mmh. Elle était née le 29 février 1920.
Ah oui, c'était une année bissextile.
Et oui, ça lui fait en réalité 24 ans. Mmh. Et ben ça aussi, c'est une certaine forme d'élégance.
T'as de beaux yeux, tu sais.